De Polar en Touraine. Le suspense dure ce samedi jusqu'à 19h, à Loke Game à Tours. Et sur Radioactive et RFL 101. Polar sur Loire, on est de retour donc sur le festival, sur le salon littéraire ici à Loke Game avec Anne de Radio Béton, Abdel de RFL 101 et vous êtes aussi sur Radioactive. On accueille Henri Ludianoff. Bonjour, bienvenue sur ce plateau.
Bonjour.
Vous êtes un des auteurs invités aujourd'hui à Polar sur Loire. On parlait justement à l'instant de votre dernier roman, Le Bal des damnés, qui est sorti en 2015 aux éditions Galatée. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Ouais,
oui.
C'est bien ça. Vous êtes un auteur tourangeau.
Tout à fait.
C'est ça. Et vous écrivez, le premier livre que je vois en tout cas qui a été publié, vous rectifiez si c'est pas ça, c'est Le Serpent Rouge en 2010.
Oui, c'est exact, oui, Le Serpent Rouge.
Et donc ça forme une suite.
Oui, alors c'est une quadrilogie. Le Serpent Rouge est le premier livre que j'ai écrit, mais c'est le troisième roman dans la série. Et là, je viens de sortir Le Bal des damnés, toujours aux éditions Galatée. Et Le Bal des damnés est le premier roman de la série. Et on retrouve des personnages qui passent d'un roman à l'autre, bien que les romans soient totalement indépendants.
Donc, vous avez écrit le troisième et là,
j'ai d'abord, oui, je me suis pris un peu pour George Lucas.
C'est ce que j'allais dire.
J'ai écrit d'abord le troisième. Là, je viens de sortir le premier et je suis en train de travailler sur le deuxième qui s'appellera Octogon, mais qui n'est pas encore sorti.
Ça veut dire que le plan, en tout cas, de ces romans a été déterminé bien à l'avance.
Voilà, tout à fait. Tout est dans ma tête. Il ne reste plus qu'à le mettre sur le papier.
Et dans quel style littéraire ? Parce que polar, c'est très très large. Il y a le thriller, il y a le roman noir.
C'est pas vraiment. Je n'écris pas vraiment du polar. C'est plutôt du roman, du thriller historique, comme on dit aujourd'hui. Ce sont des histoires avec un grand suspense, mais sur un fond historique, qui est un fond historique précis et correct, parce que c'est ma formation, je suis historien.
D'accord.
Et donc je reprends des éléments historiques. Napoléon disait « l'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on s'accorde ». Eh bien, moi, je m'attache à rectifier un peu ces mensonges et à rétablir la vérité.
Et l'action donc se situe au début du XXe, si j'ai bien compris. En tout cas,
oui,
commence au début du XXe.
Le Bal des damnés se situe, l'action se situe après la guerre de 14-18, juste à la fin de la guerre de 14-18, en Allemagne, en Bavière. Et c'est l'histoire d'un fermier qui rentre chez lui, dans le sud de la Bavière, qui remet en route son exploitation agricole et qui va découvrir dans un de ses champs, en le labourant, des statuettes sur lesquelles il y a des signes assez étranges. Et ces signes vont se révéler être des runes, qui étaient le langage, l'écriture des Vikings. Et les runes ont été accaparées par les nazis, qui ont utilisé toutes les légendes vikings pour bâtir leur propagande. Voilà, leur propagande. Avec toutes les théories d'Elena Blavatsky, de Guy Dolitz, etc. Et donc ce jeune fermier va se trouver confronté à une société secrète qui s'appelait la Thule Gesellschaft et qui était en Allemagne, qui a été les précurseurs de l'idéologie nazie et qui ont donné les mauvaises idées, notamment à Himmler et Adolf Hitler sur les théories raciales.
Donc votre personnage, c'est ce fermier allemand.
Tout à fait.
Et c'est lui qu'on suit dans l'histoire.
Et c'est lui qu'on suit durant tout le livre, oui.
D'accord. On le suit sur les quatre
on ne le suit pas sur les quatre livres. Je ne veux pas te donner la fin du premier roman. Mais par contre, il y a un personnage qui apparaît dans Le Bal des damnés, et qu'on retrouve dans deux autres romans derrière, et donc qu'on retrouve également dans Le Serpent Rouge, qui a connu un succès assez important.
Donc la matière de l'intrigue, c'est cette histoire historique qu'effectivement, pour ma part, je ne connaissais pas, qui est réelle, qui est issue de faits réels.
Oui, tout à fait. Alors, il faut bien savoir que à l'origine du nazisme, vous avez toute l'exploitation des légendes nordiques. Et donc ces légendes nordiques, bien entendu, les Visigoths en avaient une grande part, parce que c'était des peuples nordiques à l'origine, des peuples qui vivaient dans le delta de la Baltique, qui se sont ensuite transportés en Roumanie, qui se sont séparés en deux parce qu'ils étaient installés d'un côté et de l'autre du Danube. Et donc après, les historiens ont parlé d'Ostrogoths et de Visigoths. Et donc les Visigoths ont envahi Rome en 470 et sont ensuite venus s'installer en France. Et là, on démarre une page de notre histoire qui a été oubliée pour des raisons religieuses, parce que les Visigoths étaient des chrétiens ariens, donc ils étaient jugés hérétiques par l'Église catholique, qui à l'époque faisait l'école en France. Et donc, ils ont créé ce qu'on appelle le royaume Visigoth de Toulouse. Leur capitale, c'était Toulouse. Et donc, il y a une histoire incroyable qu'on ne connaît pas des Visigoths en France et en Espagne, puisque c'était un royaume très
important.
Qui était
sous forme de société secrète ou qui était
au grand jour? Non, pas du tout. Non, c'était un royaume tout à fait reconnu. Il y a eu pour moi le plus grand roi qui a régné en France et le premier qui a écrit les lois en France, c'est Éric Ier, qui était un roi absolument incroyable, qui a importé les arts, qui a développé les arts, qui a importé la joaillerie, qui a bâti la première cathédrale en France. Et donc ça, c'est une période totalement méconnue de notre histoire, parce que pendant des siècles, ce sont les prêtres catholiques qui faisaient l'école en France. Mais comme les Visigoths étaient considérés comme des hérétiques, eh bien, toute cette page de notre histoire est passée à la trappe.
Eh bien, c'est passionnant.
C'est passionnant. On va en plus découvrir des choses historiques que l'on ignore si on lit vos bouquins. Donc, ça va être le plaisir de lecture et l'apprentissage
donc le bal des damnés, le serpent rouge, qu'on trouve surtout dans toutes les bonnes librairies, sur les sites de vente en ligne, et qui existe également, maintenant je sais que ça se développe, en version électronique.
D'accord. Du coup, le troisième roman, qui est le deuxième,
oui,
va sortir bientôt ?
Non, parce que je vais sortir un autre livre avant, un livre qui s'appellera Antipolis, qui là n'aura rien à voir avec la série des quatre livres. Octogon, on pourra compter dessus, je pense, en 2018.
Merci. C'est
bientôt quand même.
Ça va arriver très vite, oui. Ça arrive toujours trop vite quand il faut écrire les livres, parce que c'est très long d'écrire un livre. Surtout ces gros livres-là.
Juste une petite question peut-être pour clore cette interview. Il est de tradition à Radio Béton, quand on rencontre des artistes, de leur poser la question du dernier livre qu'ils emporteraient. Donc si vous étiez sur une île déserte ou après la fin du monde, votre dernier livre, ce serait...
Bon, alors je vais vous passer la réponse bateau de dire le dictionnaire ou le Gaffiot ou un manuel de grammaire. Si vraiment je n'avais qu'un seul livre à emmener sur une île déserte, je pense que je prendrais Le Pavillon d'or de Yukio Mishima.
Et vous pouvez nous dire en deux mots pourquoi ?
Yukio Mishima était un auteur japonais, mm-hmm, qui a fini d'une étrange manière, puisqu'il s'est fait harakiri en essayant de faire un coup d'État. Il a essayé de faire un coup d'État dans son pays, c'était en 1980, il me semble. C'était un auteur formidable. Et donc, Le Pavillon d'or, c'est l'histoire d'un jeune bec qui affronte la société japonaise, etc. C'est une histoire humaine extrêmement belle.
Merci.
Merci beaucoup, Henri Ludianoff.
C'est
on
moi
peut
qui vous remercie.
Vous retrouver, retrouver vos bouquins ici à Polar-sur-Loire jusqu'à 19h. Donc n'hésitez pas à venir ici, c'est à Loque Game, à la rencontre des auteurs. On se retrouve dans quelques instants avec un autre auteur du Salon Polar-sur-Loire. À tout de suite.